Une expo en vedette un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il sera question d'un livre, celui du peintre Maurice Rocher, en l'occurrence son journal de 1945 à 1983 qui vient de sortir aux éditions Siloé. D'ailleurs, je crois que ce livre mériterait d'être un peu mieux diffusé parce qu'il est difficile à trouver et c'est une réussite, une vraie réussite. Le livre est riche, intense, captivant, pas seulement réservé aux spécialistes. Et dans ce livre, sous la forme d'un long leitmotiv, lancinant et douloureux parfois, Maurice Rocher nous livre, sans concession, les questions qui, sans arrêt, l'ont hanté tout au long de ces années consacrées à la peinture. Qu'est-ce qu'une vie? Dieu? L'amour? La mort? La femme? La création? Maurice Rocher.
Tout ce que j'ai pu écrire toute ma vie, et ce que j'écris encore, c'est né d'une pulsion, plus que d'une pulsion, d'une exigence. Et ça a été, ce journal a été axé sur les trois thèmes qui, tout compte fait, à des niveaux divers, ont orienté tout mon journal, aussi bien depuis l'âge de 17 ans, mais en particulier ces années de 45 à 83. Les thèmes essentiels, c'est d'abord Dieu, c'est-à-dire j'étais profondément mystique, et puis il y a eu cette espèce de bataille avec l'ange d'abord, et puis avec Dieu tout court, et il a fallu 20 ou 30 ans pour que j'en arrive à ce que je suis aujourd'hui, à ce que j'étais déjà à la fin de ce journal en 83, c'est-à-dire au non-Dieu. Bon, il y a eu la femme qui a toujours été une espèce d'obsession, la femme mythique, une obsession incontestablement, coiffant le tout, la peinture. Car j'ai commencé à peindre donc très tôt, je n'ai jamais cessé de peindre, j'ai préféré la solitude. J'ai d'ailleurs écrit quelque part dans le journal que je ne souhaitais absolument pas avoir un marchand qui attend derrière la porte et qui vende ma peinture. Je souhaitais remplir un atelier de mes toiles dans la solitude. Bon, je l'ai fait. Ben, la solitude, ça coûte cher, mais cette liberté, je l'ai. Et le journal ne dit rien d'autre que cette bataille, comme trois fils qui font un tissage.
Et ce tissage fonctionne très bien, puisque ceux qui s'intéressent à la peinture, et je pense qu'en particulier de jeunes peintres, feraient bien de vous lire, car il y a dans certains textes, dans certains jours, qui reviennent en leitmotiv, des précisions fondamentales sur ce qu'est la création, sur ce qu'à mon avis devrait être le travail du peintre, seul dans son atelier, avec lui-même et avec la toile. Mais il y a aussi, pour ceux qui ne s'intéressent pas nécessairement à la peinture, les questions que tout homme, avançant dans l'âge, est amené à se poser, justement, quant au désir, quant à la femme, quant à la régularité du couple, quant à la fidélité, et aussi le certain nombre de questions par rapport au mythe que l'on se crée soi-même, par rapport à cette femme, les images qui circulent dans la rue, etc. Et puis les questions qu'on se pose par rapport à ce qu'on croit qui nous a fondés. Vous parliez de la foi que vous rejetez petit à petit au cours du journal et au cours de votre vie pour aboutir à ce que vous appelez un non-Dieu, et d'autres, avec d'autres époques, des gens plus jeunes comme moi qui n'ont pas eu ces problèmes mais qui ont eu l'impression que certaines idées étaient à défendre et puis petit à petit tout ça s'écroule et on se demande, car c'est aussi un des leitmotifs de votre journal, qu'est-ce que c'est que de réussir sa vie? Est-ce que je l'ai bien réussi? Est-ce que tout ce que je défends aujourd'hui n'est pas une invention? Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment ça qui m'a fondé? Et à la limite, est-ce que, car c'est aussi par rapport à l'échec qui est une des grands thèmes de votre livre, est-ce que si je n'avais pas vécu différemment, suivi d'autres idéaux ou suivi d'autres femmes et peut-être suivi mes vrais instincts, est-ce que je n'aurais pas été un homme tout à fait différent qui dirait exactement le contraire de ce que je suis en train de dire en ce moment?
C'est très important parce qu'effectivement j'ai vécu non pas avec ces regrets mais avec ces questions. Qu'aurait été ma vie effectivement si j'avais changé de cap à 40 ans et si j'avais refait autre chose, qu'aurait été ma peinture? Alors, ceux qui connaissent ma peinture aujourd'hui et qui ont lu ce livre disent c'est une espèce de leitmotiv douloureux, comment avez-vous pu vivre cela? Mais ils ajoutent, mais votre peinture est là. Et c'est la peinture qui est au bénéfice de ce que vous avez vécu, douloureusement peut-être, mais c'est pour cela que cette peinture existe, telle qu'elle est. Et une fois, quelqu'un m'a dit, en 81, devant une rétrospective, quelqu'un m'a dit, ben, on souhaiterait que vous ne soyez jamais heureux pour faire cette peinture-là. C'était un peu gros. En fait, je ne pouvais pas faire d'autres peintures. Non, ce que je crois surtout, et qui est très très important, je l'ai dit souvent dans ce journal, j'étais verrouillé de tous les côtés. Bon. Je ne pouvais pas être autrement que ce que je n'ai été. Et maintenant, quand je regarde en arrière, j'assume ça comme un destin. C'est-à-dire, c'était un destin qu'il fallait absolument assumer au bénéfice d'une œuvre, d'une peinture, au bénéfice d'une création. Et je dois dire que c'est ce qui me reste dans ma vie. Et c'est d'ailleurs ce qui me reste par rapport à l'absurde de la condition humaine auquel je suis maintenant heurté, comme Camus, comme bien d'autres, hein, comme Nietzsche, comme Camus, etc. Bon, qu'est-ce qui reste ? Ben, il ne reste pas grand-chose. Mais il reste, et ça je l'ai dit, il reste la beauté qu'un homme peut créer. Il reste la création. Il reste cette espèce, oui, cette sorte d'absolu. Si on arrive, comme certains musiciens, je pense à Richard Strauss, par exemple, de certains de ses opéras, ou, et je pense à d'autres, à des peintres aussi, et peut-être, j'espère, dans certaines de mes toiles, si j'ai réussi à toucher quelque chose qui est éternel, qui est absolu, alors je ne mourrai pas. Et ça mérite de vivre. Et c'est ça qui fait que la condition humaine est peut-être supportable, mais à vrai dire, c'est le privilège du créateur. Mais d'autre part, il le paie tellement cher.
On a même l'impression, en vous lisant, avec ces sortes de rafales, de rythmes qui reviennent, avec ces leitmotifs, je crois que c'est une des clés, entre guillemets, de ce livre, c'est que, à la limite, à un moment, vous parlez de Cézanne, que votre rêve, entre guillemets, peut-être de finir votre vie comme lui devant cette montagne. On a l'impression que, un peu comme Monet aussi, vous avez construit une sorte de laboratoire, de prison, entre guillemets, et comme toujours, quand on est dans une prison, c'est pas très agréable, mais que peut-être c'est ce qui vous a sauvé et qui vous a peut-être permis aussi, dans une sorte d'état lancinant de ce manque de la femme et de ce désir aussi qui certainement devait enflammer votre corps, on le sent fort bien, et vous donner envie de rentrer dans l'atelier et peut-être de travailler. Et on peut se dire à un moment dans le livre, mais peut-être a-t-il fait exprès de créer cette prison pour arriver à cet état amoureux, état mystique et état douloureux de désir qui lui permette de créer et d'être peut-être plus fort devant la toile.
Il est certain que j'y suis arrivé après ce journal, mais je l'ai écrit, et précisément là, je l'ai écrit dans un autre livre qui sortira, qui sont ses entretiens, et je pense que la femme est un remplace Dieu. D'une façon effectivement imparfaite, mais la femme peut donner cet absolu que j'ai cherché dans la vie mystique et que la vie mystique ne m'a pas donné. C'est claudélien, ça, d'ailleurs. Cet absolu que l'homme trouve dans la femme, c'est pour remplacer ce Dieu qu'il a perdu.
Et un autre leitmotiv aussi, c'est le destin de votre œuvre. Le destin, pas seulement peut-être d'avoir l'impression d'avoir réussi sa vie en tant qu'homme ou en tant que peintre, mais aussi l'ensemble de ce travail, l'ensemble de ce que vous appelez cette souffrance, de ce prix que vous avez à payer, que va devenir mon œuvre. Et avec l'âge, on vous voit, puisque c'est sur plus de 20 ou 30 ans que se déroule le journal, on vous voit d'abord espérer une grande exposition au Musée d'Art Moderne, puis ensuite peut-être une en province, et puis ensuite, est-ce que peut-être mon œuvre ne se perdra pas, est-ce qu'il y aura bien un marchand qui va s'y intéresser avant ma mort et qui la diffusera, est-ce que je vais faire un musée, est-ce que devant justement toutes ces mondanités auxquelles vous ne voulez pas participer et qui, à mon avis, c'est vrai, plus j'avance, sont de plus en plus nécessaires et ont toujours été nécessaires, comme disait fort bien Gauguin, il ne suffit pas de vouloir dans une lettre à sa fille, mais il faut aussi vouloir, c'est-à-dire tout faire pour que l'œuvre, parce qu'il n'y a pas que l'œuvre qui reste, il faut aussi tous ces efforts. Et ces efforts, vous vous y êtes toujours refusé, par une sorte d'élégance et peut-être de suprême mépris aussi, que certainement la profession vous a reproché longtemps et vous a fait payer. Mais est-ce que ce journal, et c'est là où j'en viens à ma question, est-ce que ce journal n'est pas une manière aussi, une dernière fois, de protéger cette œuvre ?
Je n'ai pas réussi comme peintre, je n'ai pas passé la barre. Mais je n'ai rien fait pour, je n'ai pas mondanisé, je n'ai pas rencontré tel ou tel, telle femme en particulier. Les femmes aident beaucoup, les peintres. Bon. Mais pour ça, il faut sortir, il faut les fréquenter. Tout le monde sait qu'il faut 50% de travail et 50% de mondanité pour réussir. Bon, eh bien, je n'ai eu aucune espèce de mondanité et j'ai joué le jeu de la solitude et de l'exigence. Alors, c'est vrai que j'ai souvent souhaité que mon œuvre demeure rassemblée dans un musée. Bon. C'est une vue de l'esprit, c'est le Père Noël. Bon, je ne le verrai pas. Je crois dans ma peinture et cette solitude, si vous voulez, cette solitude, je l'ai voulue. Bon, ces mondanités, je les ai refusées, cette solitude, je l'ai voulu. Et quand vous parliez de Cézanne tout à l'heure, ça me touchait beaucoup, parce que ça a été une des grandes émotions de ma vie de visiter l'atelier de Cézanne, et je connais bien son conservateur actuel, je dis bien l'atelier, hein, parce qu'il n'y a pas de musée de Cézanne à Aix. Mais l'atelier, c'est une maison qu'il a fait construire pour lui, comme j'ai moi-même fait construire la mienne, avec une grande porte spéciale pour les grandes toiles, etc. Et puis, Cézanne, il a quand même tourné le dos au copinage, au parisianisme, hein, aux relations de café, au parisianisme tout court, et il est retourné dans sa ville comme un étranger, et il s'est consacré à sa peinture. Et moi, je vis ici, dans cette banlieue de Versailles, comme si je vivais à Aix, c'est-à-dire je vis totalement solitaire, totalement seul, totalement indépendant du milieu qui m'entoure, et je suis exactement comme si j'étais au fond d'une campagne, c'est exactement ça. Et je me sens très très proche de Cézanne, dans sa vie, dans sa façon de vivre, je ne souhaite qu'une chose, c'est de mourir en peignant comme lui.
Maurice Rocher au micro de Valère Bertrand. L'actualité de Maurice Rocher, c'est ce journal de 45 et 83 qui vient de paraître aux éditions Siloé. L'adresse est 22 rue du Jeu de Paume à Laval. On annonce une série d'entretiens réalisés par Nathalie Cotin sous le titre « Le peintre, Dieu et la femme ». Enfin, signalons que du 5 décembre au 5 janvier, il y aura des peintures intitulées, un ensemble de peintures intitulées « Couple » à la galerie Nouvellet, peinture de Maurice Rocher bien sûr, 19 rue de Seine à Paris.